C'est ici que.
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 Bon, bah voilà, il y a.
Floréal.
Il y a des. C'est 5 éoliennes, précisément à Cabanère, à Camarade, là. Cabanère, c'est le lieu dit.
Camarade, c'est situé.
Jeanne.
En Ariège. Et c'est situé à côté d'un village qui est peut-être un peu plus connu, qui s'appelle le Mas d'Azil. Le projet, à l'époque, c'était 4 à 6 éoliennes de 150 mètres de haut, pales comprises. C'est-à-dire que les mâts eux-mêmes font 90 mètres et les pales, elles font 50 mètres. C'est incroyable. J'arrive même pas à croire ce que je dis, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, en fait, moi, je montais le chemin de chez moi jusqu'à la route tous les jours. Disons que j'ai vu arriver le mât de mesure, l'anémomètre, le mât de mesure de la vitesse du vent. C'est assez drôle l'histoire du propriétaire de cette parcelle parce qu'il a été posé donc, selon EDF avec l'accord du propriétaire. Et après recherche, on s'est rendu compte, quand on a créé une association, que ce propriétaire était décédé en 1920 ou 21, Monsieur Banos. Et peut-être ils ont fait tourner les tables et ils ont parlé avec son âme. Quand EDF a présenté son projet, il y avait juste l'anémomètre qui était en place. C'est tout, il n'y avait rien d'autre.
Dès 2012, l'opérateur faisait signer
Laurent.
Ces fameux baux, en laissant l'idée que c'était des autorisations de pénétrer sur les propriétés pour mener des études dans la perspective éventuelle de mettre des éoliennes. Mais ce qui était plus mis en avant, c'était l'enrichissement de la connaissance du terroir, etc., de la faune, de la flore. Et donc, la mairie avait donné une autorisation orale en disant « oui, vous pouvez y aller ». C'est-à-dire, personne n'a vu venir ce qui s'est révélé le 5 juin 2013, quand le EDF Énergie Nouvelle et son bureau d'études, la Socotec, sont venus présenter leur projet.
C'est une réunion publique d'information, ils passent des PowerPoint qui vont assez vite et t'as pas bien le temps de voir et de comprendre de quoi il s'agit, quoi, en fait. Et quand ils ont vu que la salle se levait contre leur projet, ils n'ont cessé de dire « Ah non, mais ce n'est qu'un projet, ce n'est qu'un projet !» Et ils prétendaient que c'était un projet alors qu'ils avaient déjà commencé à le construire, à le mettre en place, en fait. Et du coup, comme cette première parole a été... Il y a eu quelqu'un qui a parlé comme ça en premier... À la suite de ça, plein de gens ont pris la parole pour dire « mais vous foutez de nous, ça ne nous intéresse pas votre truc, quoi ». Un mois après la réunion publique d'EDF Énergie Nouvelle, vu la réaction des habitants, en fait, il y a eu une association qui s'est créée, qui s'appelle En Avant Camarade. Et un mois après, En Avant Camarade a fait une réunion publique où il y a eu encore énormément de gens qui sont venus pour donner une information... qu'on avait construite nous-mêmes, quoi. On a réussi à faire changer d'avis le conseil municipal, qui au départ était plutôt favorable au projet. Et le conseil municipal, en fait, on a réussi à le retourner quand même.
5 éoliennes, c'est pas grand-chose, mais c'est les premières en Ariège. Et c'est évident qu'il y a un premier branchement, tout est fait. Bon, bah voilà, on en met d'autres, ça continue.
Saint-Victor et Malvieux, c'est un village qui se trouve un petit peu au-dessus, sur les hauteurs de Sainte-Afrique.
Marion.
Où donc ça fait maintenant presque 10 ans que RTE a le projet de faire là un transformateur qui devait faire 10 hectares. Il était relativement réduit à 6. Mais bon, on sait bien que dans ces cas-là, après, ils peuvent s'agrandir. Et qu'un transformateur qui serait là, juste pour évacuer l'énergie des éoliennes industrielles qui sont en train de fleurir dans la région. Et qu'il y a un transformateur qui serait capable d'évacuer l'énergie à peu près équivalente à un millier d'éoliennes, au moins 600.
Le transformateur,
Victor,
il a pour vocation de collecter l'énergie sur l'Aveyron, sur le nord de l'Hérault et sur l'est du Tarn.
On a une ligne 400 000 volts qui passe à Saint-Victor et qui passe exactement à l'endroit où ils veulent faire le transformateur. Le rôle de ce transformateur, c'est donc de collecter l'énergie de toutes les éoliennes qu'on voudrait construire dans notre région, de la monter en tension et ensuite de se raccorder à cette ligne très haute tension qui est un peu comme, si vous voulez, c'est l'équivalent du TGV pour le train. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gares, et ça permet d'aller très vite et de porter beaucoup des quantités énormes. Et donc là, ils veulent faire une gare de TGV à Saint-Victor, etc.
Oui, peut-être aussi pour dire que du coup, cette ligne 400 000 qui passe quasiment au-dessus du village de Saint-Victor en causant quand même des problèmes de santé assez importants, est une ligne qui donc ne pouvait pas s'arrêter en Aveyron parce qu'il faut un transformateur spécial pour les lignes à très haute tension. Donc, le projet de transformateur va avec le doublement de cette ligne, qui est une ligne qui part du Chefrenne hein, en Normandie, qui va jusqu'au sud de l'Espagne, et le but c'est qu'elle descende au Maroc.
Ce transformateur surdimensionné
Anne-Marie
va se trouver au cœur d'un parc naturel, entouré de parcs naturels qui ont des missions de protection et de respect de l'environnement.
Donc il y a eu une association qui s'est constituée dans le village il y a 5 ans, je crois, qui s'appelle Plateau Survolté, pour protester. Donc le projet a quand même pris du retard, donc, c'est-à-dire que là, il devrait quasiment être fini par rapport à ce qui avait été annoncé par RTE. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Du coup, la situation, c'est que les terres ne sont pas encore expropriées et que l'enquête publique n'a pas eu lieu. Et du coup, c'est à ce moment-là, un peu en concertation avec le paysan qui exploite les terres, qu'on a décidé de faire la massade.
Pour parler de la massade, ça a commencé donc le 21 décembre 2014, donc dans le froid, dans le vent, dans la neige, juste avant Noël, où on a lancé un appel à construction, donc avec le soutien de l'agriculteur qui exploite ces terres. On s'est dit, bon, ben, on va construire une petite cabane sur ces terres-là. Au moment des élections départementales, en mars, on a organisé une manifestation sur le thème, ben, puisqu'on nous demande de choisir l'avenir de notre territoire, nous on le dit, on ne veut pas d'éoliennes. Et donc il y avait 400 personnes à Saint-Affrique. Nous, au début de l'année 2015, on avait envie de faire quelque chose qui se rapporte à ce mouvement des ZAD, à ce mouvement des luttes contre les grands projets d'aménagement, à ce mouvement des, grosso modo, des habitants qui en ont marre de se faire marcher sur les pieds par ces gros groupes industriels qui viennent leur pourrir la vie. Nous, on avait envie de se raccorder à ça par rapport à la construction des éoliennes industrielles qui font se partager. On a compris que le nœud de Saint-Victor, c'était l'endroit par lequel on pouvait les tenir, parce que s'opposer à chaque petits projets partout, là où ils fleurissent, et ils fleurissent dans des endroits où il n'y a personne, en vérité. C'est toujours des zones où il y a une forte acceptabilité parce qu'elles sont totalement dépeuplées. Enfin, si on prend que ce soit les Monts de la Cône ou les Vésoux, les éoliennes, elles sont dans des endroits où il y a très peu de population, et donc où c'est très compliqué d'avoir des luttes conséquentes face à elles. Donc on s'est dit, on va intervenir sur ce transformateur, et si on arrive à bloquer le transformateur, on bloquera comme ça, dans l'ensemble, un grand nombre de projets éoliens.
Bon, au Mexique, l'essentiel de l'énergie électrique est produite par les hydroélectriques, hein, principalement qui viennent du Chiapas.
Allez, si.
Il y a une centrale nucléaire, en plus au bord de l'eau, dans l'état de Veracruz, comme à Fukushima. Donc, jusqu'ici, il y a très peu d'éoliens, hein, au Mexique. Et là, c'est un très gros projet, puisqu'ils veulent faire le plus grand parc éolien de tout le continent américain, c'est-à-dire de l'Alaska à la Patagonie. Ça serait le plus grand parc, un parc de 5000 moulins, 5000 ventilateurs, comme ils disent là-bas. Là, actuellement, moi, quand j'ai commencé à filmer, il y en avait 700, là, il y en a 1400. D'abord, l'Isme est une région, costeigne, hein, au bord de la mer. Les gens de l'Isme, c'est un peu les Marseillais ou les Napolitains de l'état de Oaxaca. Cette zone-là constitue un écosystème très fragile que les peuples indigènes de l'Isme ont su préserver en pratiquant une pêche relativement mesurée, avec des techniques délibérément artisanales. Et c'est une région qui est très indigène, et avec une forte tradition de rébellion aussi. Donc la première fois que j'avais été dans l'Isthme en 2009, j'avais été évidemment très séduit par la ville de Juchitán. Et en partant sur le Chiapas, j'avais été horrifié par les champs d'éoliennes qui s'étendaient là-bas, à La Venta, à Santo Domingo Inreñ, en direction du Chiapas. En fait, il y a eu la résistance dès le départ. Mais là, vraiment, à partir de 2012, ça a vraiment pris de l'ampleur. à partir du moment où il y a eu un projet particulièrement criminel d'environ 102 éoliennes sur la barre Santa Teresa et une trentaine sur la barre Santa Maria qui sépare du Pacifique. Et je vous assure que c'est vraiment, ça constitue vraiment un paysage de cauchemar, quoi. Et surtout, ça produit déjà des conséquences écologiques terribles et des conséquences sociales encore plus terribles.
Arnaud Michon, le sens du vent. De tous les tangibles désastres apportés par le capitalisme industriel, le dérèglement climatique apparaît à la fois comme l'aboutissement et l'emblème. Le système capitaliste, en effet, aura à peu près tout investi et tout dévasté dans le monde, jusqu'au temps qu'il fait. Politiciens, hommes d'affaires, scientifiques, lanceurs d'alerte, experts écologistes, tous nous sommes de rejoindre l'union sacrée censée nous préserver durablement de la catastrophe, tout en nous épargnant le sacrifice d'un mode de vie non négociable qui repose de plus en plus sur la consommation de l'électricité.
Aujourd'hui, environ 4% de notre consommation électrique en France est fournie par les éoliennes.
Paul ?
Et il doit y avoir 800, 900 parcs éoliens.
Directeur d'un cabinet d'études d'impact et expert auprès de l'association Négawatt.
Après, raisonner en termes de nombre d'éoliennes, ça doit être 5000 ou quelque chose, ou 5-6000 éoliennes, un ordre de grandeur. En général, vous faites référence à un parc éolien, mais pas à une éolienne tout seul. Donc c'est plus parlant de parler de nombre de parcs éoliens. Les énergies renouvelables, elles sont complètement vertes, durables, parce qu'elles ne laissent pas des fardeaux. Alors que la combustion des combustibles fossiles, on laisse des fardeaux CO2 pour les générations futures. Le nucléaire, on laisse des fardeaux déchets nucléaires. Il n'y a pas d'impact lourd irrémédiable. Il n'y a pas de pollution de l'eau, il n'y a pas de pollution des sols, il n'y a pas de substances radioactives ou polluantes qui sont amenées. Donc on est, quand on regarde tout ça, oui, on est dans des énergies qui sont durables, renouvelables, propres, oui.
Du point de vue écolo, je pense que ça ne tient pas tellement la route parce que c'est quand même beaucoup de technologies, il y a 4 tonnes de cuivre pour des éoliennes du genre qui veulent installer à Camarade, des métaux, des terres rares, enfin c'est très technique en fait comme installation, quoi.
Il y a quand même 1000 à 2000 tonnes de béton qui sont déposées au socle d'une éolienne, qui sont absolument impossibles à extraire au moment où elle sera démantelée. Il y a une pollution visuelle. Je veux dire, on va sur le mont du Caroux, qui est un superbe site à quelques kilomètres d'ici. Enfin, je ne sais pas, ça clignote de partout. Dès que la nuit tombe, il y a ces spots rouges qui ne s'arrêtent jamais, avec les pales qui passent devant, des effets stroboscopiques, etc.
Le niveau de l'eau a terriblement baissé depuis qu'il y a toutes ces éoliennes. Parce qu'évidemment, ils pompent l'eau, ils chassent l'eau pour pouvoir installer leur socle de béton. Après, ces socles de béton eux-mêmes boivent beaucoup. Et puis, il y a la contamination par les fuites d'huile. Moi, au début, j'avais du mal à croire parce que je voyais les turbines assez propres. Mais en fait, ils les nettoient régulièrement. Mais après, à plusieurs reprises, on a pu filmer des champs entiers d'éoliennes complètement tachés d'huile, de graisse, etc. Et tout ça, la saison des pluies, ça s'en va dans la terre. Et là, on ne parle pas d'une demi-douzaine d'éoliennes, on parle quand même déjà de 1400. À tel point que les pêcheurs de Playa Vicente et la plage de Ruchitán se plaignent maintenant de pollution de graisse et d'huile aux abords de la lagune, puisqu'ils sont au débouché immédiat d'un fleuve qui draine tout ça. En plus, ça a perturbé complètement le système de circulation des eaux, c'est-à-dire que avant il y avait un système extrêmement bien régulé, et maintenant ils envoient les eaux n'importe où. Ce qui fait qu'il y a des parcelles qui sont complètement ravinées, d'autres qui sont inondées 6 mois par an. Donc, évidemment, on ne peut plus rien faire. D'autres qui sont au contraire desséchés. Mais ça crée un chaos hydrologique énorme.
C'est-à-dire que quand tu fais des trous dans les montagnes ou dans les crêtes, les sources qui étaient là se perdent, les sources des villages se perdent à des moments. Après, l'eau elle coule plus dans la fontaine, etc. Il y a tous ces impacts-là qui sont autour, pas l'éolienne en elle-même, mais tout autour, qui ne sont pas du tout négligeables et qui sont même très importants.
Après, bon, il y a le problème évidemment des oiseaux et des chauves-souris qui meurent par milliers. En plus, c'est un lieu de passage des espèces migratoires qui viennent des États-Unis et qui vont passer l'hiver en Amérique du Sud et qui passent par là, puisque c'est évidemment la partie la plus étroite du Mexique entre le Golfe au nord et le Pacifique au sud, et dont les oiseaux ne volent pas, ils se laissent porter par le vent. Ils se laissent porter par le vent, évidemment, là, c'est un désastre considérable. Et donc la disparition des oiseaux, des chauves-souris locales aussi, tout ça, ça entraîne par exemple plus de moustiques, l'activité des turbines, on parle de 1400 turbines, ça modifie le climat. Ça modifie le climat, ça assèche l'humidité environnante, ça crée un assèchement de l'air et donc de la terre. En fait, les paysans de Union Hidalgo le disent, hein. Ils le constatent de façon empirique. Et puis, il y a des conséquences inattendues. Par exemple, la poussière, puisqu'ils ouvrent des routes partout, d'énormes routes de terre battue pour faire passer les camions, etc. C'est une région où il y a beaucoup de vent, donc toute la poussière va sur l'herbe et le bétail ne veut plus la manger.
J'ai un bureau d'études qui travaille sur les impacts sur l'environnement des énergies renouvelables. On se concentre sur 3 impacts. Impact paysager, les impacts sonores et puis les impacts sur la faune volante. Donc c'est oiseaux et chauves-souris. On constate, nous, on va dire, une mortalité plus importante des chauves-souris que des oiseaux, mais on a aussi plus de moyens d'éviter les collisions, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que les chauves-souris, ce sont des animaux nocturnes, donc le problème ne se pose pas la nuit. Le problème ne se pose que l'été, parce que l'hiver, elles hibernent. Donc vous voyez, c'est le problème, il est serré. Et que les chauves-souris ne sortent pas lorsqu'il y a trop de vent. Parce que une chauve-souris, c'est un pouce, c'est petit, et dès qu'il y a du vent, elles sont emportées. Donc les périodes à risque, c'est les nuits d'été, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de vent, moyennement de vent. Et donc on a des systèmes sur des éoliennes qui sont arrêtés dans ces situations à risque pour des éoliennes qui pourraient être près d'un cours d'eau ou près d'un boisement, qui sont plus fréquentés par les chauves-souris. Donc on a ces moyens-là pour... Et donc on va arrêter les éoliennes quelques heures dans l'année. Donc elles vont être arrêtées, elles ne vont plus produire à ce moment-là, mais l'éolienne va fonctionner le reste du temps sans impact particulier sur les chauves-souris. Dès le début de l'éolien, on s'est préoccupé des oiseaux. Et donc nous, notre travail en premier lieu, c'est de regarder sur un site donné quels sont les oiseaux qui fréquentent le lieu. Et comme maintenant on a un retour d'expérience, soit on ne va pas sur ce site-là, soit on met en place des mesures pour limiter les impacts. À retenir, c'est que le sens le plus développé des oiseaux, c'est la vue. Donc la règle, c'est que les oiseaux évitent les éoliennes parce qu'ils les voient. Après, il y a des accidents, il y a des incidents, mais la règle, c'est celle-là. Et donc, il y a des oiseaux qui sont plus sensibles aux éoliennes, puis d'autres qui sont moins sensibles. Et donc, nous, on étudie ça avant. À retenir, c'est qu'il y a les impacts par collision, donc, je veux dire, bêtement, l'oiseau se cogne, et puis aussi l'impact de perte de territoire, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un oiseau venait dans un endroit, par exemple, se nourrissait de serpents, de choses comme ça, et comme il y a l'éolienne, il ne va pas s'en approcher, parce que justement, il les voit, et donc il a une perte de territoire, et donc s'il perd trop de territoire, il peut avoir besoin de déménager, et donc ça c'est une deuxième incidence, et donc on regarde ça. Puis la troisième, c'est que s'il y a des oiseaux qui allaient d'un point A à un point B, puis qu'il y a les éoliennes, ils vont éventuellement passer ailleurs, et donc ça peut être préjudiciable. Donc ça, c'est les 3 choses que l'on regarde, et c'est notre travail de ensuite, en fonction des espèces d'oiseaux qu'ils fréquentent, parce qu'il y a des espèces banales, des espèces ordinaires, des espèces chassables, Et puis il y a des espèces emblématiques où là, ben, on doit être plus prudent, plus attentif, et c'est notre travail d'être plus prudent, plus attentif.
Chez nous, ils mettent des éoliennes dans un couloir migratoire, donc il y a des cartes établies par la préfecture, des couloirs migratoires. Des fois, ils se modifient bien sûr naturellement, les oiseaux décident. Bon. En général, quand même, un couloir migratoire dans un col, ils restent dans le col, ils vont pas se mettre à passer au sommet, les oiseaux. Donc nous, on était dans une zone absolument défavorable, rouge foncé, au sud de Camarès, au niveau des éoliennes, parce qu'évidemment, c'est un couloir migratoire très important. Donc, quelques années après, 2-3 ans après, la préfecture a ressorti une nouvelle carte des couloirs migratoires qui avaient miraculeusement
changé. Le feu était passé au vert.
Changé. Donc les couloirs migratoires n'étaient plus là, les oiseaux passaient par je ne sais pas où, nous on les voyait toujours passer, mais voilà, donc le préfet a fait changer les cartes et on est devenu une zone favorable.
Ici on a encore des aigles, etc., qui se font hacher par les pales. Même si la Ligue de protection des oiseaux dit le contraire, mais bon, ces études sont quand même financées par les promoteurs, donc on peut avoir des doutes.
Alors les études d'impact déjà,
Benjamin,
elles sont conduites par des indépendants, hein. Ça ne peut pas être conduit par des laboratoires internes aux développeurs.
Ancien développeur d'éoliennes industrielles.
On peut faire des pré-études dans les laboratoires internes aux développeurs, mais l'étude, elle doit être conduite et signée par quelqu'un d'indépendant. Après, on peut clairement... Le truc qui est vrai, c'est que cette personne-là, elle est payée par les développeurs. Donc, il y a forcément un lien qui est là. On ne peut pas le nier, ça, c'est sûr. Dans le Berry, par exemple, il y avait les grues cendrées qui posaient problème parce qu'il y a des grosses migrations de grues cendrées. Et donc, la question, c'est est-ce que les parcs éoliens les gênent ou pas dans leur migration? Et du coup, bah, voilà, vous avez peut-être des experts qui vont être assez orientés justement contre ou à pas vouloir trouver de moyens avec qui vous n'allez pas pouvoir discuter. Il y en a d'autres où on va essayer de dire, bon bah tiens, si on mettait telle étude en place pour vraiment vérifier sur les parcs existants, est-ce qu'elles sont vraiment gênées, on va faire des études complémentaires pour essayer d'abonder dans le sens que les éoliennes peuvent être mises en place. Ce serait très bête de toute façon de dire on arrête là, pourquoi faire ça? Non, il faut chercher, il y a toujours des solutions.
C'est-à-dire que, pour donner un exemple bien concret, à Rions dans les Landes,
Jean-Claude,
il y a un projet d'installation de 10 éoliennes de 200 mètres de haut en bout de pale.
Citoyen de Camarade, en Ariège.
Et sur le site sur lequel ils veulent implanter ces 10 éoliennes gigantesques, en fait, il y a un dortoir de grues cendrées. Et la grue cendrée étant considérée comme un patrimoine communautaire, hein, quand même, dont un oiseau très très protégé. Eh bien, comme il pourra y avoir une dérogation à la protection des espèces protégées, eh bien, le porteur de projet pourra acheter menu les grues qui se présenteront là.
Lorsqu'il y a une étude d'impact,
Jean-Luc,
les seules choses qui intéressent les personnes qui font l'étude, ce sont les espèces protégées.
Président de l'association des chasseurs de Camarade en Ariège.
Les autres espèces ordinaires, ça les intéresse pas. Et tout simplement, le site de Cabanère, qui est le point le plus haut de la commune, c'est un espace qui est à la fois un site de refuge pour le gibier, c'est un site de reproduction également pendant les périodes de reproduction. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on l'aménage ce site par le biais de réalisation de pistes forestières pour pouvoir y accéder d'une part. Entre parenthèses, ces pistes forestières sont utilisées également par les randonneurs. Donc notre présence sur le site de Cabanère, c'est de 250 à 300 journées chasseurs par année. Et pour dire l'occupation que l'on a de ce site. Il faut savoir que la CCA de Camarade, de 2007 à 2013, n'a jamais, jamais été consultée par le porteur du projet.
Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin Tampon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau.
Le coût du kilowattheure qui sort d'une éolienne sur un site vanté en France ou en Europe, il est moins cher que le coût du kilowattheure qui va sortir d'une nouvelle centrale nucléaire. Hein, le prix de revient. On est concurrentiel, l'éolien. Et ça met en plus énormément de temps pour construire un réacteur nucléaire. Hein, tandis qu'un parc éolien, ce qui est compliqué, c'est les autorisations administratives. Mais une fois autorisation administrative, ça se construit très vite. Sur l'éolien, on est avec des éoliennes qui produisent, on sait faire des éoliennes, et la tendance est que ce soit un prix qui soit de moins en moins élevé.
Pour moi, c'est un des moyens de produire le moins cher qui soit. Après, il y a une intermittence, et donc ça prouve bien qu'on ne peut pas fonctionner qu'avec de l'énergie éolienne.
Nous, on nous dit on ne peut pas faire confiance à l'éolien au photovoltaïque parce que c'est intermittent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend. Mais c'est quelque chose qui est faux et fallacieux. Parce que la production des éoliennes et du soleil, elle est variable et prévisible, mais pas intermittente. Donc la production d'une centrale nucléaire, elle est intermittente, parce qu'elle peut s'arrêter n'importe quand. On montre qu'il y a une alternative faisable, réaliste, possible. Et donc c'est pour ça que les énergies renouvelables, quand on regarde les choses de manière pragmatique, elles se développent, tandis que le nucléaire, c'est des annonces, mais qui sont rarement suivies de réalisation. C'est pour ça qu'on est vraiment... La transition énergétique, elle se passe au niveau des lois, mais elle ne se passe pas qu'au niveau des lois, elle se passe aussi sur le terrain, parce qu'on est avec des coûts qui sont peu élevés.
Il ne s'agit pas d'une transition énergétique, il s'agit de développer une nouvelle filière, qui est une nouvelle filière qui avant était l'apanage des bio, etc. Bon, là, ça a été industrialisé, massifié, rendu réaliste en fait, rendu réalisable d'une certaine manière.
C'est la grosse illusion, c'est-à-dire de dire, quand on dit le terme comme ça un peu à la va-vite, on pense, on va enlever un peu de nucléaire et on va rajouter de l'éolienne, donc c'est bien, on va enlever du nucléaire. Mais en fait, ce qui se passe en réalité, c'est une accumulation énergétique, c'est-à-dire qu'on a toujours plus de nucléaire qui est produit, et on aura en plus des éoliennes et du photovoltaïque qui seront produits, et donc toujours plus d'énergie qui sera produite.
On le voit, au fur et à mesure qu'on développe l'éolien, on continue à vouloir construire des centrales nucléaires, l'EPR, etc. Et il n'y a absolument pas même de volonté de fermer des centrales qui sont dans des états de délabrement dangereux, plus que dangereux. Donc, en fait, ça permet d'avoir toujours 20% d'énergie renouvelable. On augmente la quantité de nucléaire et en parallèle, on augmente l'éolien industriel.
Il y a une loi pour la transition énergétique pour une croissance verte, qui est une loi qui n'a absolument rien d'une transition énergétique, mais c'est une loi, en fait, tout électrique, qui va généraliser l'électricité et la demande en électricité partout, et de croissance de demande d'électricité.
C'est ça la question, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, on est dans une recherche de consommer moins d'énergie ? J'ai pas trop l'impression pour l'instant. D'ailleurs, il suffit d'entendre généralement EDF à la fin de l'année, quand on a consommé moins que l'année d'avant, ils disent « Ah, il y a un problème, on a consommé moins ». Et la vraie question, c'est consommer moins, mais une fois qu'on arrivera à consommer moins, pour moi, ça restera toujours intéressant d'utiliser pour ce qu'on a besoin de consommer des éoliennes et non pas des centrales nucléaires, des centrales thermiques, etc. Mais de le faire avec un mix énergétique renouvelable.
Donc l'éolien, l'hydraulique, toutes les autres sources d'énergie en France sont des énergies complémentaires à un système qui est essentiellement nucléaire. Et il n'est pas question de remplacer le nucléaire parce qu'il est question de produire toujours plus.
Le mouvement anti-éolien est né en Angleterre, au Royaume-Uni. Ça s'appelait The Country Guardian, donc les gardiens de la campagne, et ils ont été financés par l'industrie du charbon et du nucléaire. Donc je dirais que c'est de bonne guerre aussi, vous avez une concurrence entre énergies, et donc ces énergies charbon et puis nucléaire ont financé des mouvements anti-éoliens. Donc il y a des liens, alors c'est pas des liens nécessairement de financement, hein, par exemple en France, mais c'est des liens de proximité.
Et c'est vrai qu'on est assez peu nombreux à dire... que c'est la suite du nucléaire, on n'a pas du tout envie d'alimenter un discours pro-nucléaire, ça c'était vraiment un truc central pour nous. C'est pour ça qu'on a fait venir des Japonais de Fukushima qui sont venus un peu nous parler ici en Ariège de ce qu'ils ont vécu là-bas.
Tant que les éoliennes n'ont pas arrêté une centrale nucléaire concrètement, tant qu'on n'a pas vu ce mécanisme-là, et à mon avis on n'est pas prêt de le voir, pour nous l'implantation des éoliennes industrielles n'est pas une question de répondre à des besoins énergétiques. Les éoliennes industrielles, c'est quelque chose qui sert essentiellement à sauver la face du mouvement écologiste. C'est-à-dire que le mouvement écologiste, il a été incapable, il a fait tout ce qu'il a pu, mais il a été incapable d'empêcher la nucléarisation de la France. Et aujourd'hui, les écolos qui sont partis dans des voies politiciennes, ils se servent de ces éoliennes industrielles en disant « Mais vous voyez, on a trouvé plus ou moins une solution, si on clafie toute la France d'éoliennes industrielles, peut-être qu'on aura, on va pouvoir réussir à sortir de ce système tout nucléaire, etc. » En vérité, c'est de la pure connerie. Ils n'ont pas été capables d'empêcher le nucléaire, ils n'ont pas été capables de créer un rapport de force qui permette de l'empêcher. Et ces éoliennes-là, ces éoliennes industrielles, leur servent uniquement de paravent et d'argument pour dire « Mais vous voyez, notre action sert quand même à quelque chose. » En fait, elle ne sert absolument à rien puisqu'elle est contenue dans le même système et portée par les mêmes personnes que ceux qui promeuvent le nucléaire.
Tous les écolos pensent que ça permet de préparer la sortie du nucléaire. En fait, c'est une grosse arnaque. EDF n'a pas du tout l'intention d'arrêter le nucléaire. Parce que c'est le fer de lance du commerce français. On vend des centrales nucléaires à l'étranger. Enfin, disons, ce cauchemar-là continue et il n'est pas question qu'il s'arrête.
Pour être tout à fait clair, moi, je dirais la chose suivante. Je dirais que les éoliennes, c'est la continuation du nucléaire sous d'autres moyens. En termes de système économique, en termes de système énergétique, ça reste un système énergétique globalisé, centralisé.
Les gens dans l'Aveyron, dans l'Ariège, qui se battent contre les projets, les écolos vont les attaquer sur le thème « vous préférez les centrales nucléaires », etc. L'idée, c'est de dire « attendez, on est plutôt pour le fait qu'il y ait une autonomie énergétique des communes », mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. Ces mini-parcs éoliennes de 6 éoliennes qui se multiplient par-ci, par-là, on le voit tout le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas, on voit il y a des mini-parcs éoliens à peu près tous les 5-6 kilomètres, quoi. Des très gros trucs avec des très grosses pales qui nécessitent après des centrales électriques, qui nécessitent des lignes à haute tension, etc. Alors ça nécessite quand même tout un tas de travaux d'excavation, de bétonnage, ça reste, quoi.
Le démantèlement, c'est toute la partie visible et à raser les fondations de béton, ça dépend de la nature du sol, mais en sol agricole, qui est la plupart des cas, ça doit être 1 mètre ou 1 mètre 20 en profondeur. Sachant que le massif de béton, ouais, il fait 3 mètres de profondeur, c'est ce qu'impose la loi. Donc concrètement, certainement, à la fin, personne ne va s'amuser à enlever tout le massif de béton. Connaissant le schéma de pensée d'un industriel, ça m'étonnerait bien qu'il le fasse pour le plaisir. En gros, quand tu construis un parc éolien, tu dois consigner soit à la Caisse des dépôts, soit à un organisme d'assurance indépendant de toi, une garantie financière qui servira à provisionner le démantèlement si jamais la société tombe en faillite ou bien ne veut pas engager le démantèlement, par exemple. Alors la somme, elle tourne autour de 50 000 euros par éolienne, quelque chose comme ça.
Il verse un acompte provisionnel, le promoteur, de 50 000 euros, qui ne correspond absolument pas au prix réel que va coûter un démantèlement d'éolienne. C'est plutôt chiffré en millions. Donc il peut très bien dire « bon, mais je laisse mon acompte, tant pis, je suis désolé, j'ai fait faillite, voici vos 50 000 euros », ce qui ne correspondra pas du tout au prix du démantèlement.
Et on sent très bien que le jour où le parc éolien va tomber en ruine et qu'il va falloir le démanteler, ben, il n'y aura plus personne et que la filiale, miraculeusement, aura disparu et que ça sera à la commune de payer, en fait.
C'est ici que...
Fête du vent, Saint-Victor et Mellieu, 28, 29 et 30 août. Depuis quelques années, des promoteurs sans scrupules rôdent dans nos venteuses contrées rouergates. Ces bonimenteurs cherchent par tous les moyens à nous faire avaler jusqu'à la vie leurs milliers d'éoliennes industrielles. Seule valorisation possible, selon eux, de cette intarissable énergie qu'est le vent. A l'inverse, les habitants de ce territoire ont de tout temps tissé avec ce souffle et l'ensemble des éléments à leur disposition, un savant mélange de connaissances, de savoir-faire et d'imaginaire. C'est ce riche héritage et ces nombreux prolongements que nous allons faire vivre et célébrer en cette fin d'été 2015, car un territoire ne se défend que depuis la richesse des manières dont on l'habite. Fête du vent à Saint-Victor et Mellieu le 28, 29 et 30 août.
C'est ici que... Vous venez d'écouter le premier volet d'une série de 3 reportages consacrés aux éoliennes industrielles. Le prochain épisode sera diffusé le 26 juillet à 18h sur Vogel les Mouettes.